Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Mathieu Lavinia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Grand Siècle, historien, coordinateur de la recherche et de la formation au château de Versailles. Et nous nous retrouvons pour une série consacrée au Grand Siècle, au siècle de Louis XIV. Vous nous présentez aujourd'hui une autre date de l'histoire de France, donc de l'histoire de ce règne. Et vous avez retenu le 6 mai 1682 qui voit l'installation de la cour à Versailles. Que représente Versailles en 1682 par rapport aux autres résidences royales?
Alors, en 1682, Versailles a déjà une très très grande importance pour le roi. Il faut savoir que le roi est venu pour la première fois à Versailles en 1651. Il découvre le château qu'a fait bâtir son père. Mais en 1651, c'est encore ce qu'on appelait un petit relais de chasse ou une petite maison de campagne dont Bassompierre, de beaucoup d'années auparavant, disait dont même un simple gentilhomme ne voudrait pas. En 1682, on est loin du petit château qu'il a découvert en 1651. Louis XIV s'est pris de passion énormément pour ce château et il a grandi. Il y a eu de nombreuses constructions à partir de 1661. C'est là où vraiment il prend en charge et en main ce qui correspond à son règne personnel, à sa prise de pouvoir personnel, ce qu'on appelle sa prise de pouvoir personnel. Et il commence à reprendre en 1662 l'avant-cour, puis après différentes choses. Mais tout ça est lié notamment aux premières fêtes. Les constructions sont liées. D'abord, Versailles existe par les jardins. Il y a les grandes fêtes des plaisirs de l'île enchantée en 1664, qui sont là pour célébrer Mademoiselle de la Vallière, qui est la favorite en titre à l'époque. Il y a le divertissement royal en 1668, qui officiellement est là pour célébrer la paix d'Aix-la-Chapelle, mais qui évidemment est surtout là pour célébrer la nouvelle maîtresse en titre, Madame de Montespan. Et en 1674, deux nouvelles fêtes, le nouveau divertissement royal, qui est aussi là pour célébrer encore officiellement la reconquête de la Franche-Comté, mais qui est toujours aussi là pour Madame de Montespan. Alors, ces fêtes se passent dans les jardins, mais au fur et à mesure que Louis XIV s'attache à Versailles, il veut agrandir son château pour pouvoir loger de plus en plus d'amis et de courtisans. Donc, les constructions grandissent. Alors, 62, je vous le disais tout à l'heure, il y a les avant-cours qui sont mises en place. En 68, il y a les ailes, la vieille aile, ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille aile, et puis l'aile qui deviendra l'aile Gabriel, mais sous Louis XV, et une pour les écuries et une pour les offices. Et ça grandit, il y a le concours notamment de 1669 pour le veau, dont le but est d'envelopper le petit château de Louis XIII pour le développement, donc pour les grands appartements, et vraiment toutes ces constructions qui grandissent, grandissent et qui grandiront encore dans les années 1670 avec Ardoin Mansart pour se développer.
À partir de quand Louis XIV se dit « je vais m'établir à Versailles et Versailles sera le centre de mon royaume ». Pourquoi finalement avoir choisi Versailles ?
Alors, il choisit Versailles parce que, je vous le disais tout à l'heure, il est très attaché aussi. Il y a une sorte de piété filiale, hein, vraiment avec ce château. On a essayé maintes fois de lui faire détruire Versailles. Et Louis XIV répétait à chaque fois, vous pouvez me le faire détruire complètement, je le ferai reconstruire à l'identique. Alors, il ne faut pas se tromper non plus. Le Versailles qu'on voit aujourd'hui, qu'on a l'habitude de dire être le Versailles de Louis XIII autour de la cour de marbre, n'a plus grand-chose de Louis XIII, si ce ne sont les briques et pierres. Mais la façade a été quand même assez modifiée. Mais ça n'empêche que ça garde l'esprit de Louis XIII. Alors, pourquoi avoir choisi Versailles? Puisqu'il y avait aussi les reproches de Colbert qui voyait la résidence d'un roi à Paris, dans la capitale, d'où l'opposition entre le Louvre, qui était l'antre de ses ancêtres, qui était donc un palais parce qu'il était en ville, et Versailles, qui était un château parce que c'était à la campagne. Et on a en mémoire cette célèbre lettre de Colbert à Louis XIV en 1665, où il lui reproche Versailles en lui disant « quelle honte de faire ce château et quelle misère d'être comparé à l'aune de Versailles dans la postérité ». Alors, on voit que Colbert s'est bien trompé. Alors, pourquoi avoir choisi Versailles? Parce qu'au contraire de Paris, ici, à Versailles, le roi a toute latitude pour construire, vraiment, et s'étendre.
C'est un roi créateur.
C'est un roi créateur, voilà, c'est ça. Donc, la gloire pour Louis XIV passe à la fois par la guerre et par les bâtiments. Donc, il a toute l'attitude pour s'étendre. Alors, il va forcer la nature, comme le dit Saint-Simon. Il va déployer énormément de fastes, etc. Et ce n'est, alors, on a coutume de dire toujours, c'est en 1677 que Louis XIV prend la décision officielle, on lit ça souvent, de s'installer à Versailles. Alors, moi, j'ai un petit peu travaillé, parce que je prépare actuellement une étude sur le château de Versailles, et j'ai essayé de retrouver, justement, ce fameux 1677.
Vous n'avez pas retrouvé.
Et je ne l'ai pas retrouvé, où on dit vraiment, en 1677, Louis XIV décide officiellement. Alors, je m'étais dit, je vais regarder en 1682, peut-être que, justement, le 6 mai 1682, quand le roi s'installe, il y aura quelque chose de rétroactif, où on dit... Il y a 5 ans que le roi rêvait de s'installer à Versailles. Et en fait, non. Tout bêtement, j'ai repris les meilleurs ouvrages qui existent sur Versailles, donc toute la série de Pierre de Nolhac, où, tout simplement, c'est l'accélération des travaux en 1677 qui font clairement voir par la construction des ailes des ministres. C'est-à-dire qu'il y avait déjà les pavillons des 4 secrétaires d'État, mais le fait de relier les 4 pavillons par 2 ailes des ministres montre la volonté vraiment du roi d'installer tous ses bureaux, les bureaux, les ministères à Versailles. Le fait de prendre la décision d'étendre à la fois d'abord au sud à l'aile du Midi qui est décidée, qui est construite à partir de 1678-79, l'aile du Nord qui sera construite à partir de 1685. C'est vraiment dans l'idée des constructions qu'on voit que le roi a envie de faire de Versailles sa résidence principale. Et effectivement, on fixe à 1677 la décision, non pas officielle, mais la décision de s'installer à Versailles. Et c'est le 6 mai 1682 que Louis XIV vient s'installer en grande pompe à Versailles, où tous les carrosses débarquent dans le château. Il s'était installé quelque temps auparavant chez son frère, Monsieur, à Saint-Cloud. Depuis le 20 avril, il était à Saint-Cloud. Et le 6 mai, il décide de débarquer à Versailles, où il y a encore énormément de maçons. Parce qu'il faut savoir que le château sera un chantier permanent. Même si, on peut dire que dans les années 1690, au début des années 1690, le château est dans l'ensemble... Le gros œuvre est terminé, c'est-à-dire que le château, à peu près en 1690, est tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'en moins de 30 ans, Louis XIV a réalisé le château que nous voyons aujourd'hui. Il ne restera plus que la chapelle qui sera inaugurée en 1710 et quelques aménagements, évidemment, que feront Louis XV puis Louis XVI. Mais le gros œuvre est terminé vers 1690. Alors, au moment, ça a vraiment terminé le château. Donc il s'installe le 6 mai. La dauphine... qui devait s'installer dans son appartement, est enceinte du duc de Bourgogne qui doit naître au mois d'août, ne peut même pas s'installer dans son appartement parce que les peintures, ou alors il y a trop de travaux et ça l'incommode. Donc elle s'installe à la surintendance chez Colbert, moi chez Madame Colbert, et tout le monde s'installe dans un véritable chantier.
C'est vraiment la date du 6 mai 1682 est vraiment une coupure. C'est-à-dire Louis XIV dira désormais c'est Versailles et ce n'est plus Paris.
Alors ce n'était plus Paris déjà depuis près de 20 ans. Les précédentes...
il aimait peu Paris à cause de la fronde.
Alors, on a beaucoup dit à cause de la fronde. Maintenant, on revient un peu
sur cette idée.
Bon, Louis XIV, Louis XIV, effectivement, a été marqué profondément par la fronde, notamment par la nuit des rois, lorsqu'il était obligé de fuir Paris. Mais c'est un roi du grand air. Le roi aime énormément le grand air. Il faut toujours que l'air circule. Ça, on a vraiment des références très très précises là-dessus, où le roi a vraiment besoin de se dépenser. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de cheval, fait beaucoup d'activités, de chasse, et il a vraiment besoin d'être en permanence au grand air. Alors effectivement, il a fui Paris, il habitait les Tuileries dans les années 1660, mais très très peu. En tout cas, le Louvre avait été déserté depuis bien longtemps. Et les nouvelles résidences étaient devenues Saint-Germain. La résidence principale dans les années 1665-1682, c'est Saint-Germain. Évidemment aussi Fontainebleau, qui le restera pour l'automne. C'est-à-dire que le roi va régulièrement, avec toute la cour, se transporte à Saint-Germain. Donc elle est effectivement résidence officielle pour tout ce qui est ministère. Mais ce qui ne veut pas dire que la cour devient sédentaire. Alors... évidemment, c'est là où le roi passe le plus de temps, mais ce qui n'empêche pas des séjours très longs, qui peuvent s'étaler sur 2-3 mois, dans un autre château, à Chambord, Alors, beaucoup plus rarement, mais sinon à Fontainebleau et plus tard à Marly, où le roi passera régulièrement 3 jours par semaine à Marly.
Quel est le confort du château ? On a une image très négative, en fait, de Versailles, de la propreté à Versailles, oui. Alors que là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues.
Oui, il y a beaucoup d'idées reçues. Donc, le 6 mai 1682, je vous le disais, effectivement, là, tout le monde arrive dans un chantier. Et ça se restera jusqu'au bout. En revanche, si ce n'est pas l'hygiène telle que l'a définie le 19e siècle, on est loin des appris, du moins des topoï qu'on a sur Versailles, salles, etc. Il y a une hygiène à Versailles, alors qui n'est pas celle qu'on connaît. Le roi est frotté à l'alcool tous les jours, ou à l'eau chaude, des torchons d'eau chaude. Alors ce n'est pas... Évidemment, il faut savoir aussi que cette idée de bain, qu'il n'y a pas de bain, c'est aussi voir l'hygiène telle qu'on la pensait à l'époque, c'est-à-dire l'eau et véhicule des miasmes. Donc, c'est pas sain. Donc, vaut mieux être frotté à l'alcool et au torchon mouillé que... Et par exemple, donc je vous le disais, je travaille actuellement pour un livre sur Versailles. J'ai retrouvé pour 1710, alors c'est bien plus tard que 1682, mais les 35 fosses d'aisance du château de Versailles, qui ne sont pas des fosses d'aisance individuelles, mais qui sont des véritables fosses d'aisance pour plusieurs latrines, et avec un système souterrain, du moins de ce qu'on pourrait appeler du tout à l'égout, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment évacués en tout à l'égout. Donc l'hygiène n'est pas comme aujourd'hui, mais il y a une hygiène à Versailles, et d'autant plus chez les princes, en tout cas chez les princes de la famille de France.
Il fait bon vivre à Versailles en 1682 ?
Non, du moins il fait bon vivre. Alors tout dépend déjà de son statut. Il y a à peu près 4000 personnes qui vivent à Versailles dans le château, dans les dépendances et dans les dépendances de la ville. Donc au château, il doit y avoir à peu près 2800 personnes. Donc ce n'est pas pareil lorsqu'on est évidemment le roi dans un appartement qui fait une vingtaine de pièces principales et lorsqu'on est un simple domestique ou même un courtisan qui habite 2 pièces sous les attiques.
C'est très important ce que vous dites. Le courtisan, finalement, pouvait habiter près du roi.
Oui, alors les courtisans habitaient près du roi, mais ce sont des appartements de fonction. Il faut savoir qu'on n'habite pas sans avoir une charge à Versailles. Alors, soit on ne l'a pas encore et on bénéficie de la faveur, et dans ce cas-là, on obtient une charge. Sinon, mais c'est toujours concomitant, la charge et l'appartement en général.
Je renvoie nos auditeurs à l'émission Mathieu Davignac que nous avons enregistrée ensemble sur les vallées de Louis XIV. Cette émission malheureusement arrive à son terme. Je vous remercie beaucoup d'être venu pour nous parler donc de cette installation de la cour à Versailles. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre Les vallées de Louis XIV, paru aux éditions Perrin. Vous avez aussi participé à un colloque avec d'autres historiens, Jean-Christian Petitfils, Jean Barbet, au Centre d'études historiques de Tours, dont les actes ont été publiés, Louis XIV et le Grand Siècle, une autre idée de l'Europe. Ce livre est disponible, boîte postale 51-403, 37 014, Tours Cedex. Boîte postale 51-403, 37 014, Tours Cedex, le Centre d'études historiques de Tours. Merci beaucoup, Mathieu Davignac.
C'est moi.
Et à très bientôt.
Au revoir.